Nouveaux accords. L'émission des découvertes musicales à l'écoute des artistes locaux. Sur Studio Zef 91.1 et 91.7. Vous écoutez Nouveaux Accords, l'émission qui met à l'honneur des artistes émergents et locaux. Vous venez d'entendre Rome, single présent sur l'album Dans Mille Ans du chanteur Opaque que j'ai le plaisir d'interviewer aujourd'hui. Bonjour.
Bonjour.
Alors, pour débuter cette émission, j'aimerais bien qu'on revienne un peu à tes débuts. Est-ce que tu peux nous expliquer d'où vient ce désir pour la musique ? Comment est-ce qu'elle est entrée dans ta vie ?
La musique, c'est arrivé très tôt parce que mon père est musicien et du coup, j'ai commencé les cours de piano quand j'avais 5 ans. Donc en fait, la musique a toujours fait partie un peu de ma vie et j'ai su très tôt que je voudrais faire ça de ma vie, globalement.
C'était un peu une évidence ?
Oui, il n'y a jamais eu de question qui s'est posée par rapport à ce que je voulais faire.
C'est vraiment du fait que ton père était lui-même musicien, que tes parents t'ont poussé à faire de la musique ou même toi, en voyant ton père en faire, tu t'es dit « je veux tester ».
En fait, je viens d'une famille de musiciens, c'est-à-dire que la plupart de mes frères et sœurs font de la musique. Et donc, je pense qu'à 5 ans, j'ai dû vouloir en faire. Et de toute façon, ils auraient forcément essayé, mes parents, de me mettre à des cours de musique. Je crois que c'est un peu les deux.
Est-ce qu'il y a aussi une dimension un peu refuge dans la musique pour toi ? Une façon parfois de mieux se comprendre ou de s'exprimer plus facilement, vu que ça fait partie de ta vie depuis si longtemps ?
Je pense que oui. Je pense que ça s'est accru à l'adolescence, évidemment. Parce qu'au début, je fais de la musique parce que j'ai des cours de musique et qu'il faut que je remplisse un peu mes leçons. Mais au fur et à mesure de l'adolescence, j'ai voulu composer mes propres morceaux et j'y trouvais vraiment quelque chose de... un passe-temps et quelque chose qui me faisait vraiment du bien pour un peu déconnecter.
Comment t'es passé de, du coup, faire de la musique avec les instruments à ce processus d'écriture ?
Dès le collège, en fait, j'ai voulu composer parce que j'admirais beaucoup des tas de groupes et musiciens et je voyais mes grands frères et grandes sœurs qui avaient des groupes de musique eux-mêmes. Et j'ai toujours un peu idolâtré ce truc-là de composer, d'enregistrer, de faire ses propres musiques plus que d'interpréter d'autres morceaux. Donc, en fait, dès le lycée, j'ai emprunté l'enregistreur de mon frère et je faisais des tests, j'enregistrais des bidouilles. Ça arrivait très très vite, ce truc-là.
Comment tu décrirais ton processus d'écriture?
Souvent, j'ai des bribes de trucs, un peu comme tout le monde. Mais moi, au lieu de composer l'entièreté du morceau d'abord, très souvent, je vais faire des tests, enregistrer la partie guitare d'un morceau. Et en enregistrant, je vais trouver des paroles. Puis, parce que pour essayer de compléter un peu tout, je vais faire sur le tas, un peu à l'instinct. Je compose beaucoup plus en enregistrant qu'avant d'enregistrer.
Ok, donc vraiment toi, tout le développement de la musique t'aide à écrire les textes.
Oui, c'est ça. C'est vraiment la musique d'abord et les textes après.
Au fil de tes projets, puisque cet album c'est le troisième, t'as constaté un peu une évolution dans ta manière de créer, dans l'écriture, dans ta manière de penser la musique?
Je pense qu'il y a quelque chose de d'un peu moins flou. Maintenant que j'ai pu tester au bout du troisième album, pas mal de choses quand même. Il y a quelque chose de d'un peu plus concret et un peu plus structuré dans ce que j'essaie de faire. Parce que maintenant je maîtrise un peu plus certains aspects de l'enregistrement et du mix.
T'as aussi un style musical du coup qui est très identifiable, c'est la folk.
Ouais.
Comment est-ce que ça s'est construit cet univers au fil des années et des projets?
Ben c'est très drôle parce que la folk en fait est arrivée assez tardivement. Parce que moi à l'origine je suis surtout très fan de rock. Quand j'étais beaucoup plus jeune, j'étais vraiment très fan de rock style Nirvana, les années 90,
Ah ouais, donc
d'MTV
vraiment
un peu.
l'inverse quoi.
C'est ça. Après, je me suis mis à être extrêmement fan de rock psychédélique vers 2016-2017. Et donc, quand j'ai enregistré mon premier album, c'était vraiment dans un état d'esprit beaucoup plus rock psychédélique, avec plein d'effets partout, plein de bidouilles, et la voix très aérée. Et en fait, à ce moment-là, je me suis mis à découvrir Elliott Smith, Nick Drake, tout ça. Et je me suis rendu compte qu'il y avait une certaine corrélation avec ce que je faisais. Enfin, sans me comparer à ces artistes, mais une corrélation dans le genre. Et du coup, je me suis plongé dans la folk à ce moment-là, et donc assez tardivement, oui.
Te plonger justement dans cet univers différent, ça a changé ta façon de créer et d'écrire aussi, dans ce que tu expliquais avant.
Ouais, parce que du coup, au lieu de chercher vraiment des effets à noyer, j'essaie vraiment maintenant aujourd'hui, du coup, d'écrire plus des chansons. Et donc, je me retrouve plus dans des trucs qui sont peut-être plus froids des fois, moins d'effets, moins de production, pour vraiment avoir le cœur de la chanson.
Cette EP, donc dans Milan, tu le décris comme étant de la chanson néo-moyen-âge folk bricolage.
Ouais.
Ça veut dire quoi concrètement?
Bah, c'est un peu une blague, c'est que c'est comme ça que je décris les albums que je fais moi-même. Parce que du coup, le deuxième album a été fait avec un ingénieur son.
Ouais.
Mais les autres albums et EP, c'est moi qui les ai enregistrés et mixés. Et comme je fais ça avec mon matos dans ma chambre, un peu comme ça, bah, pour moi, c'est un peu du bidouillage, c'est du bricolage. Donc le bricolage, c'est pour ça. Et l'aspect néo-moyen-âge, c'est parce que. Il y a un peu, enfin, moi, il y a des artistes que j'écoute qui ont cet aspect un peu Moyen-Âge, mais ça veut rien dire. C'est pour cet aspect un peu avec les textes qui font un truc un peu ancien et qui rappelle un peu ça, quoi.
Tu viens de le dire, t'as enregistré, mixé les titres de cet album seul, mais Opaque, c'est aussi un groupe, surtout sur scène. Cette transition justement entre le travail seul et à plusieurs, ça se déroule comment?
Et ben là, ça a été pas mal chaotique pendant un certain temps parce que moi, je voulais faire un groupe. Mais il y avait cet aspect de. C'était moi qui faisais tout seul, et du coup, la transition était difficile à faire avec les gars quand on était plusieurs. Et donc, ça se fait comment? Bah, ça change selon les albums, ça change selon les lives qu'on veut faire.
Ok.
Et donc, j'essaie de laisser la liberté aussi à mes amis qui jouent avec moi de trouver leur place, de changer les arrangements aussi à leur sauce, pour que ça donne un vrai truc de groupe et pas simplement une représentation de ce qu'on fait, juste en live, exactement la même chose, quoi.
C'est important pour toi que ce projet soit quand même à la base solo?
Bah, aujourd'hui, oui. Pendant un moment, comme je disais, je voulais que ce soit un groupe.
Ouais.
Mais je me suis rendu compte que j'ai du mal des fois à transmettre les idées que j'ai, ou j'ai du mal un peu j'ai pas envie de me retrouver à dicter des choses. Et donc, je préfère établir le fait que c'est un projet vraiment solo, pour pouvoir avoir la liberté derrière qu'on puisse changer des trucs ensemble. Mais bon, c'est plus facile de dire que c'est un solo pour moi.
Ok, avant de discuter du coup un petit peu plus de cette EP, on va faire une pause musicale et je te propose qu'on écoute ton titre, Le Printemps Fédor. D'écouter Le Printemps fait d'or, titre que retrouve donc sur l'album Dans Mille Ans sorti en octobre 2025. Une des différences les plus flagrantes sur cette EP par rapport au projet précédent, c'est que tu chantes en français. Pourquoi ce choix?
Pareil, c'est un truc qui est arrivé assez tardivement. C'est que déjà, quand j'ai commencé à composer cet album-là, il y a eu un truc où je me suis vite retrouvé bloqué dans le texte parce que, au niveau de l'anglais, évidemment, je ne suis pas bilingue totalement. Okay. Donc les idées que je veux transmettre, c'est un peu un casse-tête, et au bout d'un moment je trouvais que ça avait plus tellement de sens de juste chercher des mots parce que sans trop savoir ce que ça veut dire. Et je sais que l'écrire en français c'est quand même très compliqué, enfin pour moi par rapport à la culture un peu plus anglo-saxonne des trucs que j'écoute. Mais j'ai enregistré un EP de reprise d'un chanteur français qui s'appelait Jean-Luc Le Ténia, et en fait reprendre ces morceaux m'ont permis de voir que je pouvais chanter en français et que ça marchait bien. Et donc j'ai voulu essayer sur cet album, je trouvais ça s'appropriait plus aux chansons.
Au niveau des reprises, tu fais référence au titre Fil de laine ?
Non, les reprises, c'était des reprises sur un autre EP que j'ai fait.
D'accord.
L'EP s'appelle La lumière sortira de nos mains. Mais effectivement, dans l'album, il y a une reprise qui s'appelle Fil de la laine. C'est pour ça que tout a découlé, le côté un peu Moyen-Âge et le côté français, ça venait un peu de là.
Pourquoi c'est cette reprise sur l'album ? Qu'est-ce qu'elle a de spécial ?
Eh bien, c'est un morceau qu'on chante beaucoup avec ma famille. notamment pendant les fêtes, et un morceau que ma grand-mère aimait beaucoup également. Et du coup, il est assez important et j'ai toujours voulu un jour le reprendre. Et comme là, cet aspect, enfin, l'album était en français, avait un côté un peu moyenâgeux, ça s'est un peu, pas comment expliquer, ça, tout s'est un peu assemblé comme ça et c'était très logique de le mettre dedans.
Ça a été un peu le fil narratif de cet album.
C'est ça, oui, pour moi, c'est un peu la clé de voûte de l'album, quoi.
Il y avait d'autres inspirations autour ou que celle-ci?
Il y a eu d'autres inspirations, oui, il y a eu un chanteur de Tours qui reprend les chansons de la Loire, qui s'appelle Marceau Boré, et qui reprend des vieilles chansons traditionnelles du Moyen-Âge de la Loire. Il y a aussi une chanteuse qui s'appelle Héloïse Descases, qui reprend des chansons, pareil, avec un lexique très, très médiéval. Voilà.
T'avais des envies particulières avec ce projet?
Eh ben, j'avais envie de retrouver quelque chose comparé au deuxième album qui était très produit, de retrouver quelque chose de très intime et très fait main, artisanal.
C'est pour toi ce troisième disque, du coup, c'est un peu une sorte de transition vu que tu passes déjà de l'anglais au français, ou aussi un peu une sorte d'affirmation de ton univers musical sur ce qu'on peut attendre par exemple dans le futur?
Pour moi, c'est un peu une transition et aussi une clôture de ces trois premiers albums, parce que pour moi, je les vois un peu comme un triptyque. Un truc très dans la complainte, dans la tristesse, la nostalgie. Et je sais que j'aimerais passer à autre chose, donc pour moi, c'est une façon de clôturer aussi cet arc-là du groupe.
Donc pour de prochains projets, on peut s'attendre à des choses radicalement différentes?
Non, pas
Non.
radicalement différente, mais peut-être quelque chose de plus entraînant, plus dévoilé, et quelque chose qui aille un peu plus vers la lumière,
Ok.
peut-être.
Donc on reste sur de la folk, mais un peu plus pop, un peu plus rock. Comment
Bah, peut-être
tu...
plus pop.
Ouais, plus
Le
pop.
côté rock, je pense pas, non.
Ok. Il y a des choses que t'as pas encore justement osé faire artistiquement, que t'aimerais tester?
Oser faire, je sais pas trop. Il y a plein de choses que j'aimerais bien tester. J'aimerais bien un jour, je pense, retester le fait de produire un album pour de vrai en studio avec un batteur, avec ou une batteuse, enfin avec d'autres musiciens, des choses qui seraient peut-être un peu plus, comment dire, oui, d'oser plus, des choses un peu plus grandes. Pourquoi pas?
Il y a un petit paradoxe sur cet album, c'est que le titre évoque le futur et des chansons qui font un peu plus référence au passé. Puis en plus, voilà, avec ce fil narratif sur le médiéval, comment ça s'est venu? Pourquoi ce titre-là, du coup?
Ben, c'est un titre dans Milan, c'est des paroles qui sont dans Fil la laine. Et comme je disais que Fil la laine, c'était un peu la pierre angulaire de l'album, j'ai trouvé que ça résumait assez bien les thèmes de l'album, parce que dans l'album, il n'y a rien qui est jamais vraiment trop résolu, à part vers la fin. Et il y a cet aspect un peu de dans Milan, ça fait quelque chose d'assez lointain, peut évoquer évidemment le futur, mais qui évoque pour moi aussi un côté nostalgie passé, qui donne l'impression de thèmes qui seront toujours là dans Milan, qui seront jamais achevés.
Il y a aussi du coup un autre paradoxe parce que tu me parlais d'un album de clôture, mais en même temps c'est un album où il y a beaucoup de questionnements au niveau des chansons.
Oui, c'est ça. Questionnements qui sont un peu résolus dans le dernier morceau qui s'appelle Fin du Western, par rapport au fait de se retrouver, de retrouver la voix, d'un peu s'unifier et de plus se sentir si seul, quoi.
On parlait un peu d'écriture avec le fait voilà, donc il y a eu le changement de langue, qu'en anglais c'était pas forcément facile du fait peut-être d'un manque de vocabulaire, mais qu'en français pareil c'est pas facile d'exprimer des sentiments.
Bah, en français, comme moi j'ai pas une culture de la chanson française qui est forcément très grande. Et puis même, il y a quelque chose dans les inspirations où j'ai du mal des fois à trouver ce que j'aime et ce qui pourrait m'inspirer pour Opaque. Donc, des fois, ça peut être un peu difficile, oui, de vouloir transcrire des choses sans être trop niais ou sans être trop référencé par rapport à des artistes. Donc, c'est difficile, ouais, des fois de trouver ce que je veux dire.
Au niveau de tes inspirations, ça vient comment tu cherches vraiment dans toi? Ça peut être n'importe quoi dans le monde extérieur. Qu'est-ce qui est important dans ce projet avec Opaque?
Tu parles pour les textes ou pour
Ouais.
globalement?
Bah alors pour les textes ou même globalement pour la musique, comment te viennent les musiques?
Bah, les musiques, évidemment, en écoutant d'autres albums. Là, je disais que justement, j'étais devenu très fan d'une folk beaucoup vraiment très chanson, très acoustique et pas forcément très produit, comme Adrian Lenker de Big Thief.
Ouais.
Oui, aussi Saul Adamczewski, qui est un ancien membre de Fat Wreck Family, qui a fait des albums de folk. Et donc ça change selon les gré des périodes, selon ce que j'écoute et ce que je veux. Et après, en termes de texte, bah là encore une fois, les textes, c'est tellement particulier. Je n'ai pas l'impression d'écrire des textes. J'ai l'impression plus de mettre un peu des thèmes et des mots bout à bout. Donc c'est difficile un peu de dire ce qui pourrait m'inspirer, je pense.
Il y a un peu une recherche de création d'histoire avec les albums.
Oui, bah ça c'est pareil, c'est quelque chose qui a toujours été là. Le premier EP que j'ai sorti en 2018, que j'avais fait quand j'étais plus jeune, mais qui n'existe plus aujourd'hui, c'était déjà quelque chose qui était avec pas mal de bruitage et avec un peu une sorte d'arc narratif, comme si c'était un album concept. Et donc ce truc-là a toujours été un peu là, il a été là dans Fragments, il était là dans le deuxième, et là il est là. En fait, j'essaie pas de raconter une histoire dès le début, mais au fil des chansons, des mix et de la création de l'album, il y a quelque chose un peu qui se crée entre les chansons.
Et comment est-ce que tu arrives à savoir que ton album il est fini, que là voilà, tu as créé ces chansons et que d'un bout à l'autre, tu te rends compte que ton histoire elle est prête?
Franchement, impossible de définir quand un album est terminé. Je pense qu'il est terminé quand on a décidé qu'il était terminé, parce que sinon, en fait, les modifications et tout ça, je pourrais continuellement en faire, et ce serait jamais achevé. Décider que c'est terminé, je pense que, à un moment donné, où il y a un instant, on se dit que là, c'est une possibilité que ce soit fini, et on décide de l'achever là.
On a enregistré cette émission le lendemain de ton concert au troisième volume à Vendôme, qui
Oui.
était début janvier. Comment ça s'est passé?
Eh ben, c'était super, c'était un très bon moment, on était contents. C'est le genre de date dont on sort assez heureux, notamment parce que c'était déjà chez un peu à la maison, c'est
Oui.
chez Figure Libre qui, du coup, c'est des gens qu'on connaît, c'est un public qu'on connaît, qui nous connaît. Et en plus, il y avait un peu ce truc de, on jouait devant des gens qui étaient assis dans les gradins. Il y avait quelque chose d'assez intime et assez beau. Et on est très contents de ce concert.
Lorsque tu es dans ton processus de création et de compo, tu penses justement à la performance live que tu vas donner, à ce que tu as envie de transmettre au public, ou ça, c'est vraiment secondaire?
Je pense que ça a toujours été plutôt secondaire. Moi, je suis quand même beaucoup plus fan. Je me sens beaucoup plus chez moi quand je compose et j'enregistre des morceaux chez moi.
Ok.
En concert, ça a moins été mon truc, le concert. Bien que aujourd'hui, là, dans les nouveaux morceaux que je suis en train de composer, j'essaye cette fois-ci justement d'imaginer ce que ça pourrait donner en concert et du coup de faire en fonction que ça puisse se jouer en concert sans être trop compliqué.
T'as une idée justement là des concerts que tu veux donner, un peu de la DA, de la vision sur scène pour cet album?
Cet album, oui, on a déjà commencé, on a fait une tournée. Et je sais que par rapport à avant, où j'essayais de trouver un truc plus rock, plus énergique, là, pour ces concerts-là, j'essaie de trouver justement ce côté intime et de retranscrire vraiment ce qu'il y a par rapport aux albums, un peu musique de chambre. Et donc, je préfère être dans des plus petites salles, devant moins de gens, mais d'avoir un truc beaucoup plus proche par rapport au public.
T'as quelques dates à donner pour l'année 2026? Cette tournée, elle continue?
Cette tournée continue? Non. Pas que je sache, mais je sais qu'on a quelques concerts. Alors je sais pas si c'est officiel, mais normalement on devrait peut-être jouer au Château d'Eau à Blois
Ok.
en mai. Sinon on va avoir un concert à Dijon et on a un concert le 7 février à Tours pour les 40 ans de Radio Béton.
Super. C'est bientôt la fin de l'interview, ça passe très très vite. Et on finit l'interview à chaque fois avec trois petites questions un peu pour vraiment connaître tes goûts musicaux. La première, c'est du coup le titre qui t'a vraiment inspiré, qui pour toi est un peu à la base de ton univers artistique.
Le premier titre qui m'a vraiment lancé dans le fait que je voulais composer des albums et que je voulais écrire des albums, c'était le titre Loser de Beck, notamment avec son album qui du coup était un album vraiment de bricolage et de un truc vraiment où ça part dans tous les sens au niveau des influences, où c'est de la bricole, c'est artisanal et moi ça m'a vraiment lancé dans la musique en tout cas.
Quel est le dernier titre que tu as ajouté à ta playlist?
Je pense que c'est Tulse Hill Station de Sola Damczewski. De Insecure Men, c'est son groupe. Et voilà, son dernier album qui est sorti en novembre.
Ok. Sur l'album, il y a plusieurs featurings. Est-ce que tu as un featuring de rêve?
Un featuring de rêve. Pareil, je pourrais en avoir plein. Là, je citerai Sola Damczewski parce que du coup, je viens d'en parler.
Ouais.
Mais sinon, mon featuring de rêve, je crois que c'est mes potes, tout simplement.
Ok. Et enfin, du coup, ton titre préféré sur cet album et pourquoi?
Alors, pareil, je vais avoir 2 secondes de réflexion. C'est peut-être 121 ou Brûlé. Les deux sont liés dans tous les cas.
Ok.
Parce que j'ai l'impression d'avoir pu transmettre cette fois-ci sans trop d'artifice ce que je voulais dire. Et je parle un peu à mes amis là-dedans et c'est un peu celui où je me dévoile un peu le plus.
Cette partie amis, entourage, c'est important. Même dans les albums, dans la création.
Bah oui, parce que oui, je l'ai pas cité tout à l'heure par rapport à la création d'album. Il y a Pablo qui du coup est avec moi et qui m'a épaulé pour l'album, qui a été là, qui m'a aidé pour les mix, qui a chanté et fait quelques claviers. Et il y a Marie aussi qui a accepté de venir chanter pour Phil Lalaine. Et donc même si pour moi c'est un projet solo opaque, c'était quand même hyper important que ce soit quelque chose de partagé et que je sois pas totalement seul dans la création, parce que c'est important d'avoir leurs avis, leurs regards et leur soutien.
C'est des gens qu'on pourrait retrouver sur d'autres projets.
Oui, bien sûr, c'est des gens qui sont. Ben, Pablo, il a son propre projet qui s'appelle Common Insight,
Ouais.
qu'elle y chante avec Marie notamment. Marie qui est aussi dans Mossaï Mossaï et dans d'autres projets. Et en fait, c'est toute une team de potes avec qui, que je vois, qui gravite un peu aussi autour de Figure Libre, le label.
Ok. C'est déjà la fin de cette émission. Tu viens de les citer, ce sont des artistes qu'on peut d'ailleurs aussi retrouver dans l'émission. Donc, j'invite nos invités à aller voir les podcasts sur le site internet. Je te remercie d'avoir accepté l'invitation et d'avoir répondu à mes questions.
Merci à toi.
Ton album, donc, il est sorti en octobre 2025 et il est disponible sur les plateformes de streaming et à l'achat. Tu as une date en février, le 7,
Ouais.
à Tours. Tu rappelles le lieu?
C'est à la petite mèze.
Et quant à moi, l'émission, elle sera retrouvée donc en podcast sur le site de Studio Zef. Et comme d'habitude, on se quitte en musique avec le single La chanson de nos pères. Bonne journée sur les ondes de Zef.
Comme dans la chanson de...